L'un dans l'autre, l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa. Bienvenue dans cette nouvelle édition de L'un dans l'autre, le magazine d'info locale de Radio B. Bonjour Perrine.
Bonjour Elsa, bonjour à toutes et à tous.
Depuis ce début d'année, les incendies en Californie se sont propagés autour de Los Angeles. En l'espace de quelques heures, c'est des milliers d'hectares ravagés par les flammes, des milliers d'habitants évacués et plus de 4500 pompiers mobilisés sur place. Face à ces feux de plus en plus violents qui se propagent à grande vitesse, quels sont les facteurs de risque? Comment faut-il se comporter? La Californie peut-elle être une terre d'enseignement pour les spécialistes des feux, en l'occurrence pour les sapeurs-pompiers? On a voulu comprendre pourquoi les incendies sont de plus en plus fréquents aux États-Unis, mais pas seulement, en France aussi. Ces derniers étés, de puissants incendies se sont déclarés dans les Landes ou dans le Var, par exemple, et même plus proche de notre territoire, dans le Jura. Alors, est-ce que dans l'Ain, ces types d'incendies peuvent avoir lieu? Quelles sont les préventions et les moyens prévus sur notre département? Nous avons interrogé le lieutenant-colonel Benoît Rossoff, chef du groupement territorial d'Ombes et référent départemental feux de forêt d'espaces naturels au service départemental d'incendie et de secours de l'Ain.
On retrouve son interview tout de suite après les brèves.
L'un dans l'autre, les brèves.
Relogement des locataires de la rue Saint-Exupéry à Bourg-en-Bresse.
Un diagnostic structurel a révélé des fragilités au niveau des coursives de l'immeuble situé aux 2 et 4 rue Saint-Exupéry à Bourg-en-Bresse. La structure porteuse du bâtiment n'est cependant pas menacée. En raison des travaux nécessaires, l'accès au logement sera interdit et 42 foyers devront être relogés, soit 75 personnes. Grand Bourg Habitat, en coordination avec la ville, la préfecture et d'autres bailleurs, s'est engagé à reloger tous les résidents sous un mois. Des rendez-vous individuels ont été organisés pour informer et accompagner les locataires dans cette transition. La majorité sera relogée sur le parc de Grand Bourg Habitat.
Le cadre de vie, un enjeu au cœur des préoccupations des Français.
Près d'un Français sur deux estime que le changement climatique influencera le choix de son lieu de vie. Pour répondre à ces préoccupations, l'Observatoire national du cadre de vie, ou ONCV, publie un rapport inédit qui doit aider les élus à préserver et améliorer le cadre de vie sur leur territoire. Créé en 2019, l'ONCV réunit des experts d'horizons divers pour analyser les attentes des Français et proposer des solutions concrètes. Ce rapport identifie 5 leviers clés: bien-être des habitants, biodiversité urbaine, mobilité courte, mixité urbaine et gestion territoriale. Le rapport est accessible en ligne sur www.oncv.org.
Hérissons-nous, le festival Jeunesse revient dans l'Ain.
Du 8 février au 22 mars 2025, le festival Hérissons-nous investit tout le département pour sa 4e édition, avec des spectacles, des ateliers et des rencontres destinées aux enfants, aux adolescents et aux familles. Cette année, 20 lieux culturels accueillent 15 compagnies et artistes locaux pour un programme varié, entre autres marionnettes, ventriloquies, contes, une célébration de la création artistique départementale à ne pas manquer, entre Pont-de-Vaux, Gex, en passant par Oyonnax ou Ambronay. Programme sur collectif-enfance-jeunesse01.fr.
Les voitures radar privées arrivent en Auvergne-Rhône-Alpes.
2025 voit l'arrivée des voitures radars sur les routes de la région. Elles seront conduites par des chauffeurs privés de la société Mobium qui a remporté le marché. L'objectif, libérer les forces de l'ordre pour d'autres missions tout en renforçant les contrôles de vitesse sur les routes accidentogènes. Équipés de radars mobiles, ces véhicules suivent des parcours définis par les préfectures et ne peuvent pas les modifier. Ces voitures cibleront principalement les grands excès de vitesse. Leurs détracteurs accusent une politique nationale de verbalisation sans éducation et sans prévention. Cette privatisation suscite de vives critiques, notamment de la part de l'association 40 millions d'automobilistes, qui dénonce un dispositif inefficace perçu comme une machine à cash. Déjà présente dans 8 régions, ces voitures s'ajoutent au radar mobile en service en France.
L'un dans l'autre, l'interview.
il faudra sûrement s'y confronter de plus en plus. Les feux de forêt sont de plus en plus nombreux. En 2023, les méga-feux ont détruit 72 000 hectares de forêt en France. Selon une étude publiée en 2024 dans la revue scientifique Nature, Ecology and Evolution, le nombre et l'intensité des feux de forêt extrêmes ont plus que doublé dans le monde depuis 20 ans. Alors comment se prémunir de ces incendies et évaluer les risques, notamment sur notre département ? Le lieutenant-colonel Benoît Rossoff, chef du groupement territorial d'Ombes et référent départemental feux de forêt d'espace naturel au SDIS de l'Ain, répond à nos questions. Nous l'avons interrogé aussi sur les incendies qui se propagent autour de Los Angeles. Est-ce que la Californie est une zone d'enseignement pour un spécialiste des feux ?
Alors, quel que soit le feu, quel que soit l'endroit où il se situe dans le monde, c'est forcément un terrain d'expérience à partir duquel il y a probablement des choses à retirer pour l'évolution de nos pratiques de prévention et de lutte, bien évidemment.
Est-ce qu'on en connaît quand même des caractéristiques de ce territoire ?
Alors, les caractéristiques du territoire nord-américain et de la zone où, qui est concernée, c'est-à-dire la Californie, c'est une zone qui est touchée en ce moment par une sécheresse extrême et qui également confrontée à des conditions climatiques qui sont particulières, puisqu'il y a eu des vents extrêmement violents, notamment au moment où les feux ont démarré, puisqu'on les autorités locales ont relevé des vents à près de 160 km/h, hein, ce qui est phénoménal. Et donc, les circonstances dans lesquelles les feux ont éclos et se sont développés, ce sont les caractéristiques que n'importe quel pays craint, en fait, hein, puisque le feu de forêt, pour qu'il se développe, il faut qu'il y ait déjà une végétation qui soit sensible au feu, donc particulièrement sèche, ce qui était le cas lié notamment à une période de sécheresse particulière. Il faut également qu'il y ait un ensoleillement fort, puisque ça participe, en fait, à la déshydratation de la végétation et donc à l'augmentation de sa sensibilité au feu. Il faut un relief qui soit propice au développement du feu, avec une zone qui alterne des vallées, des montagnes, des collines et donc notamment des zones qu'on appelle ascendantes, c'est-à-dire que le feu peut monter naturellement le long de ses pentes, et puis des conditions météo avec un vent exceptionnel. Donc là, tous les ingrédients, malheureusement, étaient réunis.
On peut penser aussi à d'autres facteurs. On voit effectivement que ces incendies touchent beaucoup les citoyens. Est-ce que les habitations sont trop près de la végétation ? Est-ce que ça aussi, c'est des choses à prendre en compte ?
Alors bien évidemment, puisque les missions des services d'incendie et de secours, c'est la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Et bien sûr, c'est dans cet ordre-là. Nous pourrions rajouter les animaux, hein, qui viennent s'intercaler entre les personnes et les biens. Lorsque des incendies démarrent à proximité d'habitations, forcément, cela vient contraindre l'action des secours qui vont prioriser leurs actions sur la sécurité des personnes et bien sûr sur la tentative de protection des habitations. Mais il faut bien se rendre compte que nous sommes là en Californie confrontés à des feux de plusieurs kilomètres, des fronts de plusieurs kilomètres de large, et il est impossible de déployer des moyens sapeurs-pompiers sur une distance aussi importante et face à des fronts de flammes qui sont d'une puissance extrême. Donc la priorité, c'est bien sûr l'évacuation, c'est de protéger tout ce qui peut l'être, en partant du principe que plus il y a d'habitations à protéger, moins les secours seront efficaces, bien évidemment.
Alors la Californie, c'est une terre lointaine, néanmoins, est-ce qu'on peut en tirer des enseignements ? Est-ce qu'on pourrait calquer des choses, apprendre des choses de ce qui se passe et les calquer sur notre territoire dans l'Ain, dans notre département ?
Alors dans l'Ain, pas directement, parce que ce sont des territoires quand même qui sont bien différents en termes de surface, en termes de végétation, en termes de relief aussi, en termes de nature d'habitation, puisque beaucoup d'habitations sur le continent nord-américain sont en bois, sont des structures qui ont beaucoup beaucoup de bois. Nous, nos habitations sont un peu moins sensibles, en tout cas dans nos régions, un peu moins sensibles à ce type de feu. Et puis la culture de lutte contre les incendies peut varier un petit peu d'un continent à l'autre. Ça dépend aussi de la relation de la société locale avec les incendies. Nous avons des régions dans le monde où les incendies sont extrêmement fréquents, encore plus fréquents qu'en Californie ces derniers temps. Les enseignements à tirer sont plutôt sur les techniques de lutte, l'évolution des techniques de lutte, avec notamment l'utilisation de drones pour avoir une vision plus globale de la physionomie du feu. C'est ce que nous faisons également aujourd'hui, notamment dans l'Ain, puisque nous disposons de spécialistes qui utilisent des télépilotes, qui utilisent des drones et qui nous permettent d'avoir une vision du contour du feu et de la manière dont le feu se déplace. Sur l'utilisation également des moyens qu'on appelle les moyens aériens, puisque de nombreux moyens aériens sont mobilisés sur ces feux gigantesques, notamment des avions bombardiers d'eau. Mais là encore, nous ne fonctionnons pas tout à fait de la même manière, puisque on a du mal à mesurer en France la dimension des massifs forestiers aux États-Unis, mais ce sont des massifs qui sont immenses, avec parfois des arbres qui font plusieurs dizaines de mètres de haut, hein, de 20 à 30 mètres de haut. Et donc, ce sont des moyens qui sont d'une autre dimension, voilà, pour la plupart.
Et je rebondis sur votre réponse. C'est des nouvelles compétences pour les pompiers de savoir piloter un drone? Est-ce que c'est des nouveaux profils?
Alors déjà, c'est dans l'ADN des sapeurs-pompiers de s'adapter à l'évolution des risques, à l'évolution de l'environnement et l'évolution des technologies, puisque ça a été, c'est une des caractéristiques de notre activité au fil des âges. Donc, d'une manière générale, tous nos sapeurs-pompiers sont formés à la lutte contre les feux dits courants, donc c'est-à-dire les feux d'habitation, les feux de voiture, les feux de poubelle, etc. Et nous avons, parmi nos 2500 sapeurs-pompiers du corps départemental, nous avons un peu plus de 1500 sapeurs-pompiers qui sont formés à la lutte contre les feux de forêt, qui est aujourd'hui considéré comme une spécialité dans le département de l'Ain. Si on va chez nos collègues de l'arc méditerranéen ou d'autres départements qui sont bien plus souvent soumis aux feux de forêt, la formation aux feux de forêt, en fait, est commune à tous les sapeurs-pompiers. Nous, ici, le choix que nous faisons, c'est d'essayer de former une majorité de nos sapeurs-pompiers, ce qui est le cas concrètement aujourd'hui. Et effectivement, petit à petit, nous nous équipons de matériel de plus en plus moderne et de plus en plus adapté à l'évolution des situations opérationnelles.
Alors justement, on parlait de feux de forêt. On constate aussi qu'il y en a de plus en plus en France, au Pays Basque ou dans le Jura, plus proche de chez nous. On a l'impression qu'ils sont plus fréquents et plus violents. Pourquoi ?
Alors, c'est une des conséquences du dérèglement climatique auquel nous sommes confrontés à l'échelle planétaire. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour que le feu naisse et se développe, il faut une végétation sèche, il faut des conditions climatiques dégradées, avec du vent, avec de la sécheresse. Et ce sont des conditions qui sont de plus en plus fréquentes sur l'ensemble des territoires du territoire national, puisque le feu de forêt qui était plutôt qui concernait plutôt les départements de l'arc méditerranéen et un petit peu les départements de sur le massif des Landes dans le sud-ouest, bah effectivement l'expérience montre que depuis quelques années ce risque-là touche de plus en plus de départements sur le territoire national, hein, que ce soit sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Et l'année 2022 a été une année qui nous a permis de nous apercevoir que finalement nous pouvions être aux portes de l'Ain concernés par des feux significatifs. Ça a été le cas, vous l'avez cité, du Jura, nos collègues du Jura juste à côté. Hein, le feu était à quelques kilomètres du département de l'Ain. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec l'ensemble des services sous la houlette de la préfecture sur la mise en place d'un plan de défense de la forêt contre l'incendie et qui a vocation à préparer le département, c'est-à-dire l'ensemble des partenaires qui sont concernés par ce risque-là. En premier lieu, les propriétaires des massifs. Hein, nous nous préparons collectivement à la lutte contre des feux importants.
Là, on parle de forêt privée, par exemple, c'est ça ?
On parle de forêt privée ou forêt publique, hein, oui. Puisque nous travaillons bien sûr avec l'ONF, l'Office national de la forêt, qui est un partenaire privilégié, qui a la capacité de nous informer au fur et à mesure de l'évolution de l'état des massifs, au moins les massifs publics. Mais nous travaillons également avec des organismes qui coordonnent les propriétaires privés, puisque l'un des enjeux notamment, c'est rendre les massifs potentiellement à risque accessibles aux moyens de lutte. Et donc ça fait partie des sujets sur lesquels collectivement nous commençons à travailler. Donc nous avons élaboré dans un premier temps une cartographie des risques dans le département avec l'identification des zones les plus à risque qui va nous permettre de prioriser les actions dans les années futures. Et donc nous démarrerons très prochainement, encore une fois sous la houlette de la préfecture, les travaux qui permettront d'améliorer la situation et de se préparer à l'avenir.
Oui, on se posait la question pour vous de l'accès, que ce soit un territoire privé, public. Ça, c'est des questions que vous vous posez aussi ?
Alors, nous, à partir du moment où il y a une situation opérationnelle, nous accédons, nous devons accéder au plus près du sinistre. Les massifs indinois sont pour la plupart des massifs qui sont exploités ou moins exploités peut-être maintenant, et dont les chemins d'accès peuvent évoluer dans le futur pour faciliter l'accès des engins de secours en cas de sinistre.
Vous parliez aussi de l'ONF, vous travaillez avec eux, avec les services forestiers. Est-ce que vous établissez des coupe-feu ? Comment ça se passe ?
Alors, nous n'établissons pas de coupe-feu à proprement parler. En fait, ça dépend ce que vous entendez par coupe-feu, mais il y a la préparation des massifs forestiers avec des zones que l'on pourrait identifier comme des zones coupe-feu et donc qui seraient déboisées. Pour éviter une éventuelle propagation d'un massif à l'autre. Alors aujourd'hui, ce ne sont pas des sujets particuliers sur lesquels nous allons. Par contre, l'utilisation de coupe-feu en cas de feu important, aujourd'hui, cette technique opérationnelle est de plus en plus utilisée face aux feux de forêt. L'objectif étant de priver un incendie de son aliment principal, qui est le bois. Et donc, il s'agirait en fait soit de brûler en amont de l'arrivée de l'incendie une zone pour que le feu réduise d'intensité, soit de débroussailler ou de couper des arbres sur une largeur suffisante pour que le feu arrête de se propager.
Alors là, on parle de l'arrêt du feu de forêt, mais j'avais envie quand même de vous poser cette question. Est-ce que chaque feu de forêt, est-ce qu'il y a une participation humaine à la naissance d'un feu de forêt ou comment ça se passe ? On se pose toujours cette question quand on voit ça aux actualités.
Alors oui, les statistiques montrent qu'entre 80 et 90% des feux sont d'origine humaine. La plupart du temps par négligence, c'est-à-dire par utilisation du feu à un moment où le feu était interdit ou dangereux. Ça peut être l'utilisation la réalisation de travaux qui génèrent des étincelles. C'est le jet d'un mégot de cigarette et j'en profite, je profite de cette interview pour rappeler à nos concitoyens que ce geste anodin, qui peut paraître comme étant anodin, de jeter son mégot de cigarette par la fenêtre, peut être dévastateur et peut générer beaucoup de dégâts. Voyons au quotidien sur les routes des gens qui continuent à jeter des mégots de cigarette. C'est vraiment un geste à proscrire. De nos comportements. C'est faire un barbecue en pleine nature alors que c'est interdit. Tous ces comportements-là font l'objet de grandes campagnes de prévention, de communication auprès du public, auprès des travailleurs forestiers aussi, auprès du monde agricole, pour augmenter la sensibilité du public sur ce risque feu de forêt d'espace naturel.
Et au-delà de la prévention, si on parle des moyens, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous déployez en cas de feu de forêt ?
Alors, le département de l'Ain, d'une manière générale, nous avons une réponse en premier lieu locale, départementale, et en fonction de la situation, nous pouvons demander la mobilisation de moyens extra-départementaux, c'est-à-dire notamment des sapeurs-pompiers des départements voisins, ou de moyens nationaux, puisque la stratégie nationale de lutte contre les feux de forêt, c'est l'attaque massive des départs de feu, l'objectif étant de limiter le plus tôt possible sa propagation. Parce que plus on tarde, plus le feu se propage, s'étend et sera difficile à éteindre et nécessitera donc des moyens. Donc l'objectif pour nous, c'est avant tout de travailler en amont sur une préparation du dispositif en fonction du niveau de risque. Et donc on travaille en amont avec des partenaires comme Météo France, comme l'ONF, qui sont capables de produire, nous sommes capables de produire collectivement des cartes de risque en fonction du temps. Et donc pendant la saison feu de forêt entre juin et septembre, tous les jours nous sommes capables de mettre à jour des cartes de risque. Et à partir de ces cartes de risque, donc il y a différents niveaux de risque, et plus le risque est élevé, plus nous on va se préparer, on va éventuellement prépositionner un certain nombre de moyens sur le territoire. Alors des moyens départementaux, c'est-à-dire qu'on peut renforcer les gardes dans les centres de secours, on peut éventuellement déployer des engins, des camions de pompiers spécialisés, mais on peut également demander avec l'état-major de zone, qui est un organisme qui coordonne les départements sur la zone sud-est, on peut demander le déploiement de moyens nationaux comme des hélicoptères bombardiers d'eau, qui sont des moyens, des hélicoptères lourds, et qui sont capables de venir se prépositionner sur notre territoire ou pas loin pour nous aider à agir.
Et depuis quelques mois, on voit aussi que les pompiers du Rhône de la métropole de Lyon sont en grève pour lancer l'alerte sur le manque d'effectifs, je les cite, pour que Lyon ne devienne pas le prochain Los Angeles. Est-ce qu'il manque d'effectifs dans d'autres villes? Est-ce qu'on manque de pompiers en France?
Alors, je ne me permettrai pas de commenter la situation chez nos collègues du Rhône, parce que je n'en connais pas les tenants et les aboutissants, en tout cas pas de manière suffisante. Quant aux sapeurs-pompiers au niveau national, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons la chance en France d'avoir un système de sécurité civile qui repose sur l'engagement citoyen de sapeurs-pompiers volontaires. Donc plus de 80% des sapeurs-pompiers en France sont des sapeurs-pompiers volontaires. Donc ce sont des gens qui s'engagent, en plus de leur activité professionnelle ou étudiante, qui s'engagent pour secourir les autres. Et donc cet engagement citoyen peut être fragile à certains endroits du territoire, parce que quand on est salarié d'une entreprise, quand on doit quitter son territoire pour faire 50 km pour aller travailler, forcément on est moins disponible pour son centre de secours. Donc le département de l'Ain, comme de nombreux départements en France, travaille aujourd'hui sur le volontariat pour promouvoir cet engagement citoyen, le soutenir et veiller à ce que les gens qui s'engagent comme ça au profit des autres puissent trouver un équilibre entre cet engagement citoyen dans lequel ils se régalent, hein, puisque quand on discute au quotidien avec eux, 80% de nos sapeurs-pompiers nous disent nous, ce qui nous motive, c'est l'intervention, c'est porter secours, c'est d'être auprès de la population. Mais ça ne marchera que si, en même temps, ils ont un bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, familiale et sociale.
Alors, peut-être un petit mot sur les sapeurs-pompiers volontaires. Comment on fait pour s'engager, si on a envie de s'engager?
C'est rien de plus simple. D'ailleurs, j'espère que vous allez venir nous rencontrer bientôt. Pour être sapeur-pompier volontaire, il faut avoir 16 ans. Et nous avons depuis peu la possibilité de garder un engagement de sapeur-pompier volontaire jusqu'à 67 ans, sous condition, bien sûr, de l'aptitude médicale. Il faut se rapprocher du centre de secours le plus proche de son domicile. Si vous avez les moindres questions, vous pouvez aller sur le site internet du service départemental d'incendie et de secours de l'Ain, www.sdis01.fr, et vous aurez tous les éléments et vous serez guidé pour vous engager et nous rejoindre. Et une fois que vous avez rencontré le chef de centre ou la chef de centre du centre le plus proche, après un dossier d'engagement, il y a une formation. Vous avez 3 ans pour vous former à la lutte contre les incendies, au secours à personne et à la protection des biens. Vous avez la possibilité aujourd'hui de ne faire que du secours à personne et de la protection des biens, si toutefois, pour l'instant, l'incendie ne vous motivait pas plus que ça. C'est ce qu'on appelle l'engagement différencié. Et donc, on a une palette de possibilités qui permet à n'importe quel citoyen qui est bien dans sa tête et bien dans son corps de nous rejoindre. Donc, je vous invite à nous rejoindre, bien sûr.
Et puis enfin, peut-être quelques conseils si un incendie se propage, quels devraient être nos premiers réflexes? Alors si c'est par exemple dans une habitation?
Alors, si c'est dans une habitation, le premier réflexe, c'est d'avertir tout le monde dans l'habitation qu'il y a le feu et d'évacuer. En évacuant, il faut fermer les portes, puisque nos habitations sont construites de telle manière à contenir le feu dans la pièce dans laquelle il naît le temps que les secours arrivent. Donc il faut bien penser à fermer les portes derrière soi, bien sûr prévenir les secours, hein, s'il y a le feu, il faut faire le 18 ou le 112, d'expliquer ce qui se passe. Et si toutefois vous étiez bloqué dans l'habitation parce qu'il y a de la fumée dans les escaliers ou dans le couloir, à ce moment-là, il faut vous enfermer dans une pièce qui dispose d'une fenêtre, de bien fermer la porte, de calfeutrer autant que possible autour de la porte pour pas que la fumée rentre, et de vous manifester à la fenêtre. Les secours arriveront, précisez bien que vous êtes à la fenêtre et que vous êtes coincé dans la maison, et les secours arriveront pour vous évacuer.
Merci.
Merci à vous.
Radio B, les bonnes ondes.
L'un dans l'autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Perrine et merci Hortense à la technique.
Merci Elsa, merci à vous pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du magazine d'info locale qui vous engage.
En attendant, on reste à l'écoute des bonnes ondes de Radio B
sur 90 FM. Dum, 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 dum. L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.